France Culture.
Dans les Cévennes, on cherchait une personne pour accompagner un petit groupe de personnes handicapées, autistes, pour les accompagner au quotidien, préparation des repas, entretien intérieur, extérieur. Ils avaient même des chevaux à l'époque. Donc j'ai dit, pourquoi pas, on va voir, on va tenter. Et c'est vrai que j'ai envoyé une lettre de motivation, un CV, et rapidement, Jacques m'a contacté en me disant qu'il serait content de me rencontrer et de voir par la suite. Donc assez enthousiaste, mais d'un côté, je me dis, je connais rien du tout du monde du handicap, encore moins de l'autisme. J'y suis allée en me disant, non, mais c'est pas possible. Ils m'ont reçu, je me souviens qu'il y avait Jacques et Gisèle dans la cuisine. Il y avait leur petit garçon, Camille, à l'époque, qui avait 9 ans. Et puis, il y avait Jean-Marie, Gilou, qui faisait la vaisselle, Christo qui passait le balai. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette... ces gens comme ça. Ça me paraissait...
Oui, il y a des scènes... Il y a des scènes qui sont marquantes, parce qu'on arrive dans un milieu... Où déjà, moi, l'une de mes forces, c'est le bagou, entre guillemets. J'ai une langue en caoutchouc, j'arrête pas de parler. Et ici, ça ne sert à rien. Mais vraiment, vraiment à rien. Et en plus, ici, quand on arrive dans cet univers, il y a des sons, des bruits de bouche, des bruits de... qui peuvent même presque être effrayants au départ. De par l'inconnu, de par...
Et puis rapidement, Jacques, une façon de raconter une histoire, m'a parlé de Deligny et je me suis pris un petit peu de passion. Et puis c'est vrai que quand je lui ai dit que je connaissais rien du monde du handicap et que je savais pas trop si ça allait le faire, il m'a dit mais justement c'est ce qu'on recherche, voilà, une personne qui a pas d'expérience, qui a pas de préjugés, qui sait travailler autant avec sa tête qu'avec ses mains, et donc il m'a laissé ma chance.
Une vie de radeau. Déployer le quotidien aux côtés d'autistes mutiques. Leïla Kouroussé-Likwa, Franck Lille.
Je regarde parce qu'il y a des échelles et quelqu'un qui... ça bricole encore là. Oui, ben là, on s'approche du grand mas de Gourgas. Mais vraiment, c'est un très, très grand mas. C'est presque un hameau. Il y a une ruelle intérieure, il y a un four à pain, il y a des habitations un peu partout, des caves. C'est un peu un reflet des Cévennes, d'ailleurs. Il y a des bergeries, des magnaneries. Il y a une partie, c'était une maison de maître. Après, il y a des endroits qui étaient... dans le temps à l'extérieur, mais qui se sont retrouvés à l'intérieur dans des caves. Ça se voit à des fenêtres qui donnaient vers l'extérieur et qui sont complètement... Ça a été construit au cours des siècles, quoi. On est au pied des deux montagnes de Monoblet, là, les deux jumelles. Et c'est là que je suis arrivé en 67. Je suis arrivé plusieurs fois pour retaper la maison. J'avais rencontré par des amis à l'usine, moi je travaillais à l'usine. Il y en a qui connaissaient Guattari, Félix Guattari, philosophe, psychanalyste, qui travaillait à la clinique Laborde avec Jean Houry. Et il avait acheté cette maison, cette grande bâtisse, pour que ce soit un lieu de rencontre où beaucoup de gens pouvaient, des gens qui n'avaient pas l'habitude de se rencontrer, pouvaient se rencontrer. Des enseignants, des médecins, des artistes et des ouvriers dont je faisais partie. Donc en 67, je viens plusieurs fois retaper un peu la maison qui en avait besoin. Et puis à l'été 67, là, pendant mes vacances d'usine, je reviens et là, par contre, la maison est remplie de gens. Il y a des voitures partout, garées comme elles peuvent, autour de ce mas, qui n'avait pas l'habitude d'avoir des voitures. Moi, je ne suis pas rentré dans la maison, j'avais planté ma tente un peu sur des murettes. Et c'est là que toute l'histoire démarre, quoi. J'étais de passage pour une troisième fois à Gourgas, parce que je devais reprendre mon travail à l'usine, hein, en septembre. Et puis, mais, voilà, je ne suis jamais reparti.
Imagine ce débord, instable, qui écoute d'étranges chants, ceux qu'on n'entend pas. Ils ne font pas de bruit, donnent d'autres noms à l'oubli et dansent dans les marges, dansent. Ceux qui par d'étranges détours dansent, en grand silence dansent.
Avant, j'étais dans la vente des fruits et légumes pendant 8 ans. Avant ça, j'ai fait un peu plus de 10 ans de restauration. J'ai quitté les Cévennes. Je suis parti 10 ans sur Paris. J'ai été un peu sur Marseille. Enfin, j'ai pas mal bourlingué avant de revenir déjà dans les Cévennes. Et j'ai fait tout un tas de choses qui n'avaient absolument rien à voir avec ni l'autisme ni le social.
Je m'appelle Jacqueline et avec ma compagne Gisèle et d'autres personnes, j'ai passé plus de 50 ans en compagnie d'autistes mutiques, enfants et adultes. J'ai travaillé vite, hein, j'ai travaillé à 16 ans, famille nombreuse, fallait ramener la paye, le père malade, j'habitais en banlieue. Je travaillais chez Hispano Suiza à Bois-Colombes, c'était dans l'aéronautique. Et moi, j'étais pas dans un atelier, au moins cette liberté de naviguer dans l'usine, et j'étais électricien. Donc j'allais dans les ateliers remplacer une lampe, remplacer une prise ou refaire de nouvelles installations. Oui, là on est dans les pourtours de la. Du mas de Gourgas où il y a des grands chênes, des grands micocouliers, des murettes des Cévennes, sous ces murs qui ont été bâtis pour garder un peu de terre. Et là, on arrive donc à l'arrière de la bâtisse, ce qu'on appelait la cour. Et dans cette cour, les enfants jouaient. Alors je leur avais fabriqué une balançoire tape-cul. Chacun se met à un bout et donc ils étaient en train de jouer avec cette balançoire que je venais de faire et arrive par la petite ruelle là qui est par au-dessus, qui va là-haut, plus haut que le mas, arrive hein, ce drôle de petit gamin, Jean-Marie, qui trottinait puisque pendant longtemps il marchait même pas, il avançait sur la pointe des pieds en tapant des mains et il arrive là et l'animation des gamins d'un seul coup s'est tue. Ils se sont tous mis dans leur coin ben, en voyant arriver ce gamin, quoi, parce que c'était un peu étrange, hein, c'était surprenant. Donc moi, je suis resté à côté de la balançoire. Je l'ai invité à monter sur la balançoire, mais il n'a pas répondu. Bon, j'apprendrai après qu'il était autiste, mutique, totalement mutique et tout ça. Bon, et j'actionne quand même à la main, la balançoire. Alors il vient tapoter, comme il faisait souvent dès qu'il y avait quelque chose qui l'intéressait. Il a tapoté sur un des sièges de la balançoire. Je l'actionne un peu, ça monte, ça descend. Puis d'un seul coup, il s'assoit. Donc moi, je m'assois à l'autre bout. J'y vais doucement quand même pour qu'il monte, qu'il redescend, et puis ça vraiment ça a l'air de lui plaire, et puis plus ça va vite, plus il est content, et puis il rigole, si bien que tous les gamins qui étaient là tout autour s'approchent et se disputent presque pour prendre ma place, pour faire sauter ce drôle de petit gamin, Jean-Marie. Voilà, c'est la première fois où je voyais ce gamin. Puis après, hop, il repartait dans cette... Il y a une autre ruelle là-bas avec un petit pont, et puis il disparaissait.
Je parle régulièrement de Jean-Marie aux salariés. Nous avons d'ailleurs quelques photos. Donc les nouveaux salariés me demandent souvent. Donc c'est vrai que je leur en parle parce que c'est un peu Jean-Marie qui nous a un peu ouvert la porte à la prise en charge, à l'accompagnement de personnes autistes. Il nous a tout appris en fait. C'est en l'observant, en étant à ses côtés, présence proche, partager son quotidien, qui nous a amené en fait à comprendre certaines choses, certains modes de fonctionnement. Ça a été un peu comme Deligny à l'époque, l'avant-gardiste de la prise en charge. Jean-Marie a été un peu notre modèle, on va dire, pour l'accompagnement des personnes que nous accueillons actuellement.
Il y a une rue à l'intérieur où j'installais de l'électricité. Et j'étais sur un escabeau, j'étais en train de monter des câbles et tout ça. Et puis voilà ce drôle de petit gamin, Jean-Marie, qui arrive. Et puis qui regarde vraiment avec attention mes mains qui sont en train de... Et pas longtemps après, il y a une jeune femme, qui est Annie, qui fera partie de toute cette histoire aussi, c'est la sœur de Gisèle, il y a Annie qui l'appelle Jean-Marie. Donc ce petit gamin avait un prénom, c'était Jean-Marie, mais qui n'avait pas du tout l'intention de répondre et de rejoindre... Annie qui l'appelait, et il avait surtout, voilà, comme fasciné par... Au bout d'un moment, je suis descendu de l'escabeau, et puis bon, j'ai dit bonjour à Annie, et puis, curieux, moi j'étais... Autant le gamin était curieux, hein, mais moi aussi j'étais autrement curieux, et donc je les ai suivis, presque à 100 mètres du mas, il y avait deux tentes, et c'est là que j'ai fait connaissance de Fernand Deligny, quoi. Et il venait de rencontrer Jean-Marie, et pour avoir lieu, il faut un lieu. Dans sa tête, c'était Gourgas qui pouvait être le lieu pour permettre à un gamin autiste, mutique, comme Jean-Marie, d'exister, quoi. Il avait été quand même question pour ce petit gamin de lobotomie. Hein, c'est horrible, mais... Les lobotomies, ça existait encore. On les faisait surtout pour les grands fous, là, ou les criminels, ou tout ça. Mais ce gamin, il était... Bon, à part évidemment ouvrir les robinets, courir après l'eau et tout ça, c'était vraiment pas ni méchant, ni dangereux, quoi. Puis l'été se terminait. Je m'apprêtais à retourner en usine, et c'était vers la fin, là, il n'y avait plus personne, sauf... les uns et les autres, Guy, Marie-Rose, Annie, Gisèle, toute la petite équipe qui était autour de Deligny, et c'est là qu'il me pose la question. Tu resterais bien ? J'ai dit oui, puis voilà.
Alors Pour les moments de nuit, en fait, nous essayons voilà, de nous relayer à tour de rôle. Chaque nuit, en fait, chaque salarié fait une nuit par semaine à peu près. Partager une nuit, c'est pas rien. Les accompagner au sommeil, quand il y a un petit peu des agitations, c'est rare, mais ça peut arriver. La nuit, c'est pas évident, puisqu'on est quand même seul avec eux. Salut, Christo. Donc là, du coup, Rikia se trouve actuellement à l'étage avec les 6 résidents donc qui sont couchés depuis 8h30 à peu près. Donc là, elle est dans sa chambre de garde, comme on l'appelle. C'est en fait une chambre au même étage que ceux des résidents, sur le même palier. Voilà. Et Rikia sera là donc jusqu'à demain matin, 8h, que la prochaine relève se fasse. Et je crois que demain, c'est Audrey et Véronique qui seront là la journée.
Le quotidien, c'est un quotidien simple. Quand j'étais seul avec Jean-Marie, c'était aller ramasser du bois pour allumer le feu. Et puis, oui, c'était ça. Puis j'entretenais un petit peu les alentours, je coupais du bois, faire à manger, enfin une vie simple. Hein. Jean-Marie, évidemment, il participait à tout, mais il participait volontiers. Hein. C'est ça qui a toujours été surprenant. Un soir, c'était l'hiver, hein, dans l'après-midi, on était monté là-haut sur la jumelle. Ça s'appelle Saint-Chamand, là-haut. Hein. On monte là-haut à Saint-Chamand avec un goûter. Mais c'est déjà une bonne marche, et puis il faut escalader. Et puis quand on avait fini, évidemment, on redescend. Je prépare la soupe, c'est le soir, c'est l'hiver, hein, la nuit tombe vite. On n'avait pas grand-chose à faire le soir, hein. On n'avait pas ni radio, ni télé, ni rien. Moi, je lisais un peu, mais Jean-Marie, il se couchait assez vite. Nous voilà donc dans la même pièce, chacun dans un lit. Puis, en pleine nuit, je vois que Jean-Marie s'agite sur le lit, il se mettait à genoux, puis à se balancer, et puis à faire des drôles de bruits, comme quand il n'est pas trop content. Il faisait Et puis, même à un moment, bim, des grands coups de tête dans le mur. Donc j'allume la lumière, je suis quand même inquiet, je me demande qu'est-ce qui se passe. Je suis un peu désemparé parce que je lui demande même pas ce qu'il a parce que je sais qu'il répondra pas, mais pas obligé, je suis tout seul, pas de véhicule, pas de téléphone, on est quand même très très isolé. Donc je suis quand même très 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 inquiet. Je me fais signe comme je peux, qu'il me montre tout ça, je lui prends la main et hop, dès qu'à peine je lui prends la main, il sort du lit et il file dans le grand couloir. Alors je le rattrape parce que c'était l'hiver, il était en pyjama. Donc je lui mets un manteau, des chaussures. Et heureusement, j'avais une lampe électrique. Hein, et heureusement, j'étais tout près de lui parce que sinon, j'aurais rien vu. Il a cavalé à l'endroit où, l'après-midi, on avait mangé des oranges. Et donc, c'est des oranges qui sont difficiles à éplucher. Donc, je les avais coupées avec mon couteau en deux et retourné la peau pour manger la pulpe. Et qu'est-ce que je n'avais pas fait? Je n'avais pas remis les peaux à l'endroit. Donc, il se précipite sur ces deux demi-oranges, ces deux peaux. Il remet vite les peaux à l'endroit. Il les laisse par terre. Hein, et il redescend joyeux, en tapant des mains, en rigolant et tout ça. Et c'est là qu'a commencé à s'apercevoir très vite que la façon de voir les choses, penser et tout ça, c'était autre chose que ce que nous, on pouvait se dire. Quoi, parce que moi, je m'étais dit, oui, il a mal, il a ci, il a ça, mais j'étais loin de penser qu'il y avait deux peaux d'orange qui n'avaient pas été remises à l'endroit. Des choses comme ça, il y en a eu quand même des dizaines et des dizaines avec d'autres gamins, quoi. C'est la place des choses, c'est l'endroit des choses. C'est ce qui nous a permis très vite de faire attention à tout ça en vivant avec ces garçons et filles, ces gamins mutiques. Parce que c'est très important. Et là, c'est vrai que je pourrais en raconter des tonnes.
chaque objet de la maison a sa place, a sa fonction et à la vue de tout. Voilà. C'est vrai que nous, dans la cuisine, on n'a pas de porte qui ferme, on n'a pas de rideau qui cache, parce que voilà, on veut que les résidents puissent avoir accès, quand c'est le moment de mettre la table, quand, à toutes ces choses du quotidien. Ça rassure pour certains de voir que les choses sont à leur place. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai hérité, oui, de Jacques et Gisèle. Et puis, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait son utilité. C'est pas simplement on range les choses à leur place parce qu'on est maniaque. Non, pas du tout. C'est que vraiment, le jour d'après, si on dit, par exemple, à un résident, à Christo ou à Gilles, fais-moi passer les ramequins ou autre, voilà, qu'ils puissent avoir accès, qu'ils y soient et que ce soit compréhensif et prévisible pour eux, tout ça. C'est d'autant plus important puisqu'il n'y a pas le langage. Même des objets qui sont là depuis que moi je suis arrivée et qu'on n'enlèvera pas parce que ça fait partie du quotidien, du cadre, des repères. Un vieux poste de radio que Jacques voilà, écoutait qui ne marche plus, hein, n'empêche que le poste de radio il est toujours là. Parce que de le jeter, de l'enlever à la vue, ça peut perturber, c'est un repère à moins, c'est... Dès qu'ils ne voient plus les choses un peu repérantes, un peu habituelles, ça peut vite les paniquer. Donc c'est vrai que ça, on fait attention. On y veille. Je m'appelle Laurie Arnaud, j'ai 46 ans. Je suis arrivée dans les Cévennes en 97. Et ça fait maintenant 26 années que je travaille à la magnanerie. Voilà, je suis arrivée à l'âge de 19 ans. Et pour rien au monde, je changerai.
Dans le couloir, des pas, à peine audibles. Un léger frottement sur le carrelage. Des pas qui, par moments, stationnent sur place, tout en frottant les pavés. Puis ils avancent à nouveau. Les pas feutrés approchent de la chambre où je dors. La porte s'entrouvre légèrement. Dans la faible lumière du matin, l'œil tout noir de Malika apparaît.
Le réveil. Alors le réveil, assez paradoxalement, c'est peut-être l'heure la plus intense de la journée.
J'allume les lumières du couloir et celles des chambres, sinon ce petit manège va se répéter.
On a beaucoup de petites choses à faire en un temps assez court, qui est dû à leur quotidien, qui est dû à la relève. Donc le réveil sonne à 6h30. Juste un bruit de porte, il y en a déjà deux qui sont de toute façon déjà réveillés. C'est Malika et Christo qui, eux, si je débarquais à 1h dans leur chambre, seraient déjà chauds pour aller déjeuner.
Sans un mot, les cinq autres compagnons, mutiques eux aussi, se lèvent et s'habillent.
Une fois tous réunis, on descend à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Et là, c'est vrai qu'il faut quand même...
Chacun s'active et apporte ce qu'il faut, gestes coutumiers qui s'enchaînent sans qu'un mot ne soit prononcé. Juste les pas des uns et des autres qui vont de la réserve ou des étagères vers la table, le bruit des bols et des cuillères posées sur la table.
C'est vrai qu'il faut être bien éveillé, bien conscient de ce qu'on est en train de faire et bien commencer à donner le tempo.
Petite scène du matin dont je ne me lasse pas.
Jusqu'à la fin du petit déjeuner et la vaisselle du petit déjeuner, ou après le petit déj, on sent comme quelque chose qui retombe. C'est très particulier à vivre. Ça y est, on est debout, le petit déjeuner est passé, on peut se poser, il va y avoir la relève.
D'accord. Bon, ben ici, ça c'est le hameau de Graniès. C'est huit maisons collées les unes aux autres, complètement collées, entourées par une ruelle, un petit chemin. Et quand on arrive donc à Graniès, le hameau est vide. Et la raison pour laquelle le hameau est vide, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Voilà. L'eau, c'était une fontaine qui alimentait le hameau. Une fontaine avec, où l'eau arrive par des fossés, des bassins et tout ça interminable. Et surtout, le propriétaire autour disait « l'eau, elle est mienne ». Si bien que le hameau a été déserté, il n'y avait plus personne. Et nous, on s'est débrouillés. Donc c'est 8 maisons, mais en même temps des bergeries, des magnaneries. On est toujours en Cévennes.
Alors c'est vrai que l'eau, cet élément qui fait du bruit, qui a une couleur particulière, qui parfois une odeur, moi je sens bien qu'il y a quand même quelque chose de commun avec les personnes autistes, qu'ils aiment manipuler. Ils aiment manipuler, quand il y a un verre qui se renverse, ils peuvent rigoler. Il y a quelque chose avec l'eau qui fait que, voilà, dès qu'il y a des fontaines, des cascades, c'est vrai que souvent on a fait des sorties où on les amenait, des cascades, c'est ce côté un peu, pas effrayant, mais parfois presque, avec du bruit, tout ça, mais ça, on sent qu'ils vibrent, que ça les fait vibrer. Et ouais, c'est quand même quelque chose de commun chez les personnes, moi, que j'ai pu rencontrer, les autistes non-verbaux, et ouais.
On n'avait pas d'eau, hein, la fontaine coulait quand elle pouvait, mais pour boire, on n'avait pas d'eau claire, elle est très sale. Donc à 200 ou 250 mètres du hameau, par des petits chemins, il y avait une source qui sortait. Donc au début, Gisèle avait accompagné Jean-Marie avec... il avait une bonbonne, un entonnoir et puis une petite casserole pour pouvoir remplir la bonbonne de 5 litres. Et après, il y allait tout seul, Jean-Marie. Et alors, le père Massal, là, qu'on voyait de temps en temps, nous racontait qu'il se régalait, c'est comme ça qu'on dit ici, il se régalait à le voir parce que c'était... presque cérémonial, c'était toujours pareil. Il se mettait à genoux parce qu'il y avait une grosse pierre pour pouvoir puiser de l'eau avec sa casserole. Il remplissait la bonbonne. Quand il y avait assez d'eau dans la bonbonne, bien sûr, il a bouché la bonbonne. Mais s'il restait de l'eau dans la casserole, il la remettait dans la source. Il gardait la casserole bien haute jusqu'à ce qu'il y ait la dernière goutte. Il prenait donc la bonbonne, tout ça, il partait. Et puis, quelques dizaines de mètres plus loin, c'était habituel, il y avait un gros roncier, et là, il pissait. Alors, il posait sa bonbonne, tout ça, il défaisait son pantalon, puis il prenait surtout son tricot qui calait sous son menton pour pisser. Et quand le père Massal nous racontait ça, il en était presque à l'imiter, en train de mettre son pullover sous son menton pour pouvoir pisser, une fois qu'il avait bien fini, jusqu'à la dernière goutte. Il repartait tranquillement... avec son entonnoir et la casserole qui tapait un métallique qui faisait du bruit. Et ça, c'est vraiment un souvenir du père Massal, qui, entre parenthèses, qui nous a prêté des terres pour faire du jardin, et entre autres, qui jouait l'international à Saint-Hippolyte le 14 juillet avec l'harmonie. Mais très vite, ça se sait. De Ligny a plus de 50 ans, il est quand même connu. Et des médecins psychiatres ou psychanalystes comme Françoise Dolto, Maud Manani, ont affaire à des enfants mutiques aussi et ne savent pas trop par quel bout attraper ces petits garçons et filles. Et connaissant de renom De Ligny, ils s'adressent à De Ligny pour qu'on puisse les accueillir. Nous, les accueillir, c'est déjà un petit réseau qui s'est mis en place. Quand on a quitté Gourgas, certains sont venus ici à Graniès. Guy et Marie-Rose, sa femme, ont été à Monoblet. Moi, j'ai pérégriné un petit peu à gauche, à droite, mais je suis aussi arrivé à Graniès. Et donc, des enfants arrivent d'un peu partout. Hein. Et moi, j'ai habité Graniès et très vite, j'ai campé dès 69, là, dès que... beaucoup d'enfants autistes ont commencé à venir. Et il nous semblait évident d'aller camper. Quoi. Et donc pendant des années, j'ai fait des allers-retours, des campements, mais des campements qui duraient 7-8 mois hein, dans l'année. Puis je revenais un peu à Graniès et repartais. Quand les parents accompagnaient leur gamin, c'est simple, hein, ils voyaient Deligny, ils racontaient un petit peu tout le trajet du gamin et tout ça. Et tout ce qui était dit à Deligny restait dans son bureau, il ne nous disait rien. À part vraiment des choses vraiment qu'il fallait à tout prix savoir, quoi. Si un gamin avait le vertige, alors qu'on crapahutait souvent dans la montagne, il valait mieux savoir qu'il avait le vertige. Mais pour le reste, on ne savait rien, rien du tout. Et souvent, il avait même des médicaments à prendre. Et Deligny avait dit, vous croyez que c'est nécessaire? Et les parents ramenaient les médicaments. Mais nous, voilà, on était au courant de rien. Et Deligny n'est jamais venu, mais jamais, dans aucun des lieux du réseau. Il est resté toute sa vie ici à Grasniès, hein, en déménageant dans plusieurs maisons, mais il allait dans aucun des lieux. Et il n'y avait jamais de réunion, d'ailleurs. On avait une forte amitié entre les uns et les autres, mais on ne s'est jamais retrouvés ensemble, quoi. Pour la bonne raison qu'aussi, on était 24 heures sur 24 dans les lieux et qu'on ne pouvait pas... C'est Gisèle qui faisait la liaison en mobylette entre les lieux pour avoir un peu des informations. C'est Deligny qui faisait de temps en temps des courriers aux parents. Puis, l'idée de prendre des images est venue assez vite. On avait une caméra qui circulait entre les lieux et j'étais bien placé pour filmer puisque je ne savais pas du tout comment tel ou tel gamin était chez lui. Donc, je filmais le lieu, ce qui s'y passait. Et souvent, les parents étaient étonnés parce que ils voyaient leur gamin comme jamais ils ne l'avaient vu, quoi. Je me souviens d'un qui on fendait du bois. C'était un hiver, on avait une cuisinière là. Il fallait refendre des bûches. Un jour, il a pris la hache. Bon, j'ai fait attention, bien sûr, connaissant pas du tout. Mais il était très 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 adroit et il fendait des bûches et il se régalait. Donc j'ai filmé ça. Et quand la maman a vu les premières images avec son fils avec une hache dans la main, elle était affolée presque. Et puis très vite, elle a vu que ça se passait, qu'il fendait très bien le bois. Voilà, donc il y avait des surprises comme ça, ce qui permettait à Deligny de dire tout le temps, vous connaissez bien sûr votre gamin, ça c'est sûr, mais vous le connaissez dans certaines circonstances. Changeons les circonstances, il peut être autrement. Et là, on est à l'île d'en bas. En bas, parce que c'est en bas de Grasniès. Il y a Grasniès au-dessus, mais on est très loin, quand même assez loin de Grasniès, parce que ça, c'est en pente forte. On est au bord du ruisseau, du Crespenou. Et ben, en fait, c'est le premier campement. On est au printemps 69, et c'est le premier campement qu'on fait. L'île, parce que de l'endroit où on était, on voyait rien d'autre que les montagnes un peu autour, le ruisseau sur le côté, mais on voyait aucune maison, on aurait pu se croire dans une île, quoi. La vie s'installe là, sur quelques murettes un petit peu éboulées. J'installe un feu, c'est-à-dire quelques pierres, avec deux barres de fer pour pouvoir faire à manger. Sur une murette un peu plus haut, je mets les tentes. Il y a deux tentes où on dort. Et voilà, et là, les journées se déroulent un peu, tous les jours un peu pareil. Les matins, on prépare le petit déjeuner, j'allume le feu, je fais chauffer de l'eau. Jean-Marie n'est pas toujours avec nous, mais il descend, il revient, il redescend, il remonte là-haut à Grasniès. Mais c'est lui quand même qui fait le café. On a un moulin à café à main, alors donc ça, il se régale à tourner ce café, parce que surtout, il adore le café. Alors c'est lui qui moule le café avec le moulin entre les jambes. Et puis bon, il verse le café en poudre dans un filtre qu'on a sur une cafetière que j'ai récupérée comme ça. Là, et il attend patiemment. Il est toujours très très patient. Et voilà, et dès que l'eau bouge, Jean-Marie s'occupe après de prendre la casserole et par goulet mettre un peu d'eau sur le filtre à café. Et puis voilà, le déroulement de la journée, c'est comme ça. Il y a plusieurs repas par jour. On se déplace beaucoup parce qu'on va chercher ici. Puis petit à petit, j'installe un petit peu. On n'a pas de table, on n'a rien. Donc je ramène des grosses pierres pour pouvoir faire des sièges. Une porte, une vieille porte que j'ai récupérée qui sert de table. Il y a un peu de linge à laver. Il arrive que certains gamins s'oublient un peu la nuit dans le duvet. Donc il faut... Je vais au ruisseau pour nettoyer les duvets, les faire sécher. Voilà, ça c'est le déroulement quotidien de la vie. Alors, de temps en temps, j'ai mes deux jeunes frères qui sont en vacances, là, puisque c'est quand arrive l'été, donc ils viennent un peu m'aider. Et puis il y a donc Jean-Marie qui monte et qui descend, et Gisèle qui vient et qui redescend aussi de temps en temps. Mais sinon, je reste de longs moments tout seul avec cette petite bande qui, au fur et à mesure de cette première saison, grandit.
Le quotidien est essentiellement basé sur la vie ordinaire d'une maison à plusieurs. Il y a les courses à prévoir, il y a les repas à préparer qu'on partage tous ensemble. Il y avait les balades aussi, énormément. On continue de maintenir cette activité-là parce que on sent que ça leur convient, que ça leur plaît, que ça les décharge beaucoup. Puis l'environnement, c'est quelque chose... Moi, je pense que Jacques et Gisèle, quand ils sont venus s'installer à la Magnanerie, il y avait une intention derrière et puis c'était réfléchi, le lieu. Cet endroit-là, un peu isolé, en pleine nature, parce qu'on voit bien que les résidents, ils sont complètement connectés avec la nature. Par exemple, Gilles, quand il y a des nuages dans le ciel, il sort et puis il peut rester des heures à regarder les nuages bouger, passer. Même des fois, il fait le tour de la bâtisse pour suivre un nuage. Voilà, donc des fois, on se dit, il est où ? Ça va, il n'est pas très loin. Tom, il adore regarder les feuilles tomber des arbres. Faut pas oublier que les personnes autistes ont une hypersensorialité. Donc tout ce qui est visuel, auditif, c'est plus amplifié que chez nous, que chez des personnes lambda. Donc ils prêtent beaucoup d'attention et on voit que ça les fait vibrer, que ça les fait se sentir bien.
Et c'est à cette époque-là que les cartes ont commencé. Les cartes, j'explique un peu, parce que c'est pas... Parmi tous les gamins qui étaient là, il y en avait un que j'avais appelé Cornemuse, et pour cause. Il gonflait énormément son ventre, mais très fort, hein, très, très gros. Donc il aspirait de l'air. Et quand il recrachait de l'air, il y avait un son, il y avait de la musique. Des fois, c'était des airs à la mode. Des fois, un jour, j'avais chanté la Marseillaise, et il ressortait la Marseillaise. Donc j'avais appelé Président Cornemuse. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne bougeait quasiment pas. D'ailleurs, la crainte qu'on avait dans ce trou, où il y avait quand même un peu de voisinage, même s'il était très éloigné, il y avait quelques maisons plus loin, puis il y avait le hameau. Les gens auraient pu se demander qu'est-ce qui se passait, parce que quand il n'était pas content, Cornemuse, quand il chantait, ça allait, mais quand il criait, il hurlait, hein, puis il se foutait surtout des claques, et des claques sur la joue, sur la tempe. Donc, un jour que mes frères étaient là, que je pouvais donc quitter le campement, parce que je ne bougeais pas d'en bas, de l'île d'en bas, je vais voir Deligny, puis je lui raconte un peu, je lui dis... Moi, mon souci, c'est... Bon, ça va, hein, on se débrouille, les gamins, ils sont là, il n'y a pas de souci, mais c'est Cornemuse, il crie, tout ça, et ça va pas. Il me dit, t'as qu'à tracer. Je dis, tracer quoi ? Tu traces, tu fais ton plan, le plan de ton campement, hein, on appelle ça un territoire, hein, tu fais ton territoire, les murettes, le ruisseau, la tente, l'abri, là où on fait le feu, un gros chevalet où je coupais du bois. Tu fais ça et puis tu traces tes trajets. Il faut imaginer dans une journée, quel que soit le lieu, que ce soit dehors ou dans une maison, il y a des endroits où on passe 20 fois, puis d'autres on va une fois, deux fois. Et puis, il avait récupéré du papier transparent. Sur un papier transparent, tu traces les... Alors, il préférait appeler ça des lignes d'air, pas les trajets des gamins, mais il préférait le mot ligne d'air. C'est-à-dire que les gamins, ils circulaient dans le campement. Hein. Certains restaient plantés au même endroit à se balancer, d'autres faisaient... Pour aller d'un point à un autre, ils faisaient un détour pour aller passer derrière l'arbre et tout ça. Scrupuleusement, j'essaye de tracer de mémoire, souvent le soir, parce que j'étais quand même occupé dans la journée, de refaire les déplacements des uns et des autres. Un jour, j'ai pu monter, voir Deligny. Il avait entassé tous les papiers calques de tous les trajets, et plusieurs fois pour chacun, de tous les gamins. Et c'est vrai que d'un seul coup, apparaissait comme un cercle, un peu ovale, mais un cerne, dont les déplacements des gamins ne dépassaient pas. Hein, ils ne passaient pas une certaine limite. Alors, lui qui n'était jamais venu m'a dit qu'est-ce que c'est que ça ? T'as mis quoi du barbelé ? T'as fermé le truc ? Il dit non, c'est ouvert. Enfin, ça grimpait un peu. Hein, il y avait des murettes et tout, mais j'ai dit c'est ouvert. Non ? Et c'est là que c'est les premières choses qui nous sont apparues. Des choses qui nous crèvent les yeux, mais qu'on ne voit pas, parce qu'on est des langagiers, on parle, on se dit des trucs. Que ce qui était étonnant, c'est que ces gamins qui jamais n'avaient même campé ou quoi que ce soit, restaient comme attirés, aimantés par le lieu de choses qui se faisaient, ce lieu de vie, ce lieu de... Donc ça nous a permis de chercher autrement ce qui fait repère à tous ces enfants mutiques.
Des trajets structurants, c'est tous les jours, chaque minute. Je m'appelle Guillaume Lemarié, ça fait 6 ans que je suis à la magnanerie. Il faut savoir qu'ici, on cherche le moins possible de médicaments, ce qui, pour l'autisme, est une forme de camisole. Ici, la camisole, entre guillemets, c'est l'instant, le moment. Là, c'est le moment du petit déjeuner. Là, c'est le moment de la balade. Là, c'est le moment qui va rythmer la journée au fur et à mesure. Et c'est aussi nous. On est là pour gérer l'émotion qui peut des fois les envahir.
Le tracé de ces cartes nous a surtout poussé à bien aménager les campements, à faire que les choses soient claires. Je prends un exemple, faire la soupe. Quand vous faites la soupe, on épluche des légumes. Après, on les passe dans une bassine pour les laver un peu. Après, il faut les couper en petits morceaux. Après, il faut les cuire. Hein. Donc ça fait 3-4 petites opérations. Mais comme on avait de l'espace, on avait dispersé ces moments à des endroits différents, hein, sur une grosse pierre, après on allait les laver ailleurs sur une autre pierre au bord d'une murette, après on les emmenait. Et le fait de décortiquer un petit peu les mouvements, les moments, il y en a d'un seul coup qui mettaient la main à ce qui se passait, prenaient les légumes, les remettaient dans l'écumoir et tout ça. C'est pour ça qu'on tenait à camper, parce que dès que tu campes, il y a de l'espace. C'est pas des méthodes, hein, c'est pas ça, mais c'est un coup, c'était une pratique qui révélait tout un tas de choses et qui permettait justement à tous ces gamins mutiques, gamins et gamines, enfin des garçons et des filles, puisque c'était, à cette époque-là, c'était encore des enfants, de prendre part à ce qui se passait.
Il y a Gilou qui s'installe là. En face, c'est Christo. Le fait d'être en face, ça a aussi un peu un intérêt. C'est qu'en fait, Gilou a beaucoup besoin de repères. Et son repère principal, on va dire que c'est Christo. Il regarde beaucoup ses faits et gestes. Quand il commence à éplucher, Gilou va commencer à éplucher. À couper, il va couper selon l'aliment, la carotte, la patate. Et c'est vraiment Christo qui donne le tempo. Et Gilou qui, voilà, qui copie. Et qui... Il suffit qu'on sorte la bassine à compost, la planche à découper, pour qu'ils savent que ben, c'est le moment où on va préparer la soupe. Donc on sort les légumes. Il y a deux des résidents, les plus anciens, qui sont là depuis l'âge de 9 et 12 ans, qui coupent, qui épluchent et qui nous aident à confectionner la soupe chaque soir.
Être seul avec eux permet un silence. Et dans ce silence, l'oreille nous indique beaucoup de où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et en 6 ans, ça fait peu comme expérience, comparé à quelqu'un comme Jacqueline qui, lui, a passé 50 ans, c'est juste fou. Mais quand même, en 6 ans, on arrive à développer cette habitude. Ici, vraiment, je m'attends à avoir le son avant même qu'il soit là.
Le réseau se réduit par la disparition de Guy et de Marie-Rose. Reste encore avec nous. Ce ne sont plus des enfants, puisque Christo, Gilou, Jean-Marie, ça fait déjà 20 ans, 25 ans qu'ils sont avec nous, donc ce sont des adultes. Et surtout, juste un peu avant que Deligny disparaisse en 96, nous sommes sommés de régulariser notre situation. Surprise de Deligny d'ailleurs, qui depuis 20 ans, 30 ans, s'étonnait de ne pas avoir été... Peut-être que son renom a dû protéger un petit peu cette démarche. Et c'est dans ce même moment-là qu'on a la possibilité d'acheter une grande ruine, hein, qui est la Maganerie. Et donc, c'est là que revient l'idée de structure d'accueil non traditionnelle expérimentale qui avait été proposée par Simone Veil en 75, ce que tout de suite Denis esquive. Mais quand même, là, ça rebondit là, en 96. Donc je vais voir les responsables du département. Et c'est là que je leur dis, mais on nous avait proposé ça, ce statut de structure d'accueil. Et donc, évidemment, ça a mis un moment avant d'aboutir. Pendant ce temps-là, Deligny disparaît. Et c'est comme ça qu'on a mis en place le lieu à la Maganerie. On a pu embaucher une, deux personnes, dont Laurie, hein, qui était là dès le début et qui est restée avec nous pendant plus de 20 ans. Et voilà.
Alors c'est vrai que très rapidement, j'ai senti qu'il n'y avait pas beaucoup de paroles. Bon, ils m'avaient expliqué qu'ils étaient non-verbaux, donc il fallait essayer du moins possible de s'adresser verbalement à eux, de parfois certains de ne pas les regarder dans les yeux non plus. Donc c'est vrai que bon, moi, à 19 ans, ça a été un peu... Mais je me suis complètement adaptée. Et moi-même, étant de nature assez réservée, ça ne m'a pas dérangée finalement, voilà. Alors c'est vrai que le non-verbal, c'est pas quelque chose d'inné. Nous, entre nos collègues, on s'adresse verbalement entre nous, on échange, on discute, Avec les résidents, c'est un petit peu différent, parce que tant que c'est dans le contexte, Par exemple, on est en cuisine, je demande à Gilou, à Christo ou même à Tom de m'apporter ou le pain ou la planche à découper. Ou un élément de la cuisine, ça va faire signe, ils vont comprendre. Donc on se dit, ah ben il a compris la parole. Non, parce qu'on reproduit ça dans leur chambre, dans la salle de bain, dans le salon, alors là ils sont paumés complets. Voilà, donc moi ça c'est vraiment quelque chose que j'ai clairement identifié, c'est que si c'est pas dans le contexte, voilà, c'est compliqué. Donc c'est vrai qu'avec Jacques et Gisèle, on parlait très peu, on faisait très attention à ne pas trop parler quand ils étaient à côté parce que ça pouvait agacer certains. Ça... Mais moi je me rends compte qu'avec les années, ben, pas tant que ça en fait. Voilà, parce qu'on arrive à faire des repas tous ensemble avec les salariés, on invite d'autres personnes, où ça parle, où il y a du brouhaha, tout ça. Eh bien, ils ne sont pas tant perturbés que ça. Donc, bon, après, ça reste des moments, voilà, isolés, festifs. Donc, voilà, ça serait tout le temps, je pense que ça, voilà.
Le besoin d'immuable. Mais c'est une image un peu comme un... Moi, je suis un manuel, hein, je suis un ouvrier, les outils, les établis où on travaille. Pour travailler avec ses mains, il faut que l'établi soit costaud. C'est pas le tout d'être habile, c'est pas le tout non plus... Bon, il faut avoir des outils bien affûtés. Moi, j'ai beaucoup travaillé le bois, sculpté, tout ça. Mais si ton établi il est branlant, ben tu fais du travail, tu fais du mauvais travail. Et on peut considérer un petit peu ce quotidien comme un établi, voilà. Et sur un établi bien costaud, il peut y avoir du nouveau et des surprises.
Par exemple, quand on part en randonnée, donc c'est un moment très sympa où on prend le pique-nique, moi je m'assure qu'on soit positionné pour prendre le pique-nique en cercle, que chacun puisse s'observer. Puisque c'est vrai que quand on donne signe à Christo, parce que bon, c'est celui qui a le plus d'expérience, de pique-nique, de randonnée, tout ça. Alors, par exemple, je dis, ou on dit avec mes collègues, Christo, sors ta gourde et prends-toi un verre d'eau. Il va le faire. Du coup, les autres vont l'observer et ça va faire écho. Voilà, pareil, Christo, prends ton paquet de chips avant de manger ton sandwich. Ou, il va le prendre, il comprend un peu plus la parole. Donc. Et les autres le voient faire et du coup suivent. Et ça, c'est, voilà, je trouve ça super, quoi. Eux, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Je sais que Gilles, il y a la balade qu'on fait quotidiennement vers Gourgas. Il a un endroit où il se poste et puis il fait un jeu de main, il tourne sur lui. Ça prend 3 secondes, mais c'est vraiment un endroit où il a fait ça et je l'ai toujours vu faire ça voilà, depuis 25 ans.
Ils ont tous des mouvements avec les mains. Hein. C'est les mains qui tapotent, c'est les mains qui frottent sur leurs dents. C'est comme presque des ballets, des danses avec les bras, les mains. Enfin, les mains, c'est pas rien. Hein. Dans leurs gestes, les autistes, il y a le geste, je mets des guillemets, utile, mais il y a en même temps des gestes ornés, on appelait ça des gestes ornés. Voir Jean-Marie faire la vaisselle, c'est un spectacle qui m'a ravi pendant des dizaines d'années. C'est la main qui va dans l'évier avec l'éponge, qui ressort, qui presse l'éponge et qui recommence, et l'eau qui coule, et enfin... Après avoir fait ça 2-3 fois, elle lave bien l'assiette, il lève l'assiette, il la remet dans l'eau, après il attend qu'il n'y ait plus une goutte, après il la met dans l'évier de rinçage ou dans la bassine de rinçage. Parce que... La même gestuelle reprend, identique à la précédente. Et c'est ainsi pour toutes les assiettes, pour toutes les tasses, tous les couverts, les verres, toute la vaisselle qui participe à cette chorégraphie, un foisonnement de gestes accompagné par le bruissement de l'eau. petites merveilles qui se répètent chaque jour.
Avec Jacqueline, Laurie Arnaud, Guilhem Lemarié, Christo, Gilou, Amar, Malika, Kenji, Tom et toute l'équipe de La Magnanerie. Merci à Gisèle Durand-Ruiz, Julien Rougelot, Elina Lapierre, Lisa Guillamotte, Pauline Mocor, Claude Favre, au collectif Vie de Radeau et aux présences proches. Documentation Anne-Lise Signoret, prise de son Hélène Langlois, mixage Julien Douminc, l'expérience Aurélie Charon et Inès Duperron. Une vie de radeau, une émission de Leïla Kourousselikoua, réalisée par Franck Lilin. Mm-hmm.